Ce matin, quand je préparais aussi l'enseignement, j'avais prévu de parler du chapelet. Et j'ai dû aussi relever le courrier électronique du sanctuaire. Alors je vous partage le petit clin d'œil que j'ai reçu. Un message. Bonjour, je m'appelle Blandine et j'ai 17 ans. Si je vous écris aujourd'hui, elle l'a écrit hier soir, mais je l'ai lu ce matin. Si je vous écris aujourd'hui, c'est parce que Notre-Dame du Scapulaire du Sacré-Cœur m'a obtenu une grâce et je voulais l'en remercier en vous la faisant connaître. En effet, le soir du 21 septembre, j'ai appris d'une sœur, amie de mes parents, qu'un petit enfant de 4 ans, Arsène, avait eu un traumatisme crânien en tombant à l'école et devait se faire opérer le soir même. J'ai alors prié le chapelet, ce que je ne faisais pas d'habitude, à Notre-Dame de Pélvoisin, devant une image du Scapulaire du Sacré-Cœur. Dimanche matin, j'ai appris de ma mère que le garçon était conscient, parlait et semblait n'avoir aucune séquelle grave. C'est pourquoi je vous présente ce témoignage, rendre grâce à Notre-Dame du Scapulaire du Sacré-Cœur et à son sanctuaire qu'elle m'a fait connaître par Internet. Un petit clin d'œil. Et puis, en lien avec le titre que j'avais donné, je vous ai annoncé Publie ma gloire. Ce mot d'ordre que Marie a adressé à Estelle, qu'elle lui a rappelé un bon nombre de fois, en lui demandant d'y être fidèle. Et pour prolonger, j'ai déjà parlé de la plaque de l'ex-voto. Je veux revenir sur ce que j'ai dit par rapport au calme, prendre le temps d'approfondir un peu, parce que on voit que dans le cheminement d'Estelle, elle reçoit cette injonction de publier la gloire de Marie, elle place l'ex-voto, et Marie va le lui redemander encore au mois de juillet, et va lui demander le calme. Je voulais présenter rapidement ce qui s'est passé pour Estelle quand Marie lui dit « Sois calme, je ne te dis pas l'heure ou le jour où je viendrai, je voudrais que tu sois encore plus calme », ça c'est le 3 juillet. Et puis, il y a ces longues semaines pendant lesquelles Estelle ne voit plus la Vierge Marie et devient impatiente. Vous vous souvenez, donc, elle était donc toujours dans... Elle vivait tout le mois de juillet dans la même maison, donc dans le lieu des apparitions. Au mois d'août, elle retourne au château de Montbel et puis pour y reprendre son service. Et là, son trouble augmente parce que elle s'est éloignée du lieu des apparitions et elle cherche toutes les occasions. Alors, je vais lui donner la parole dans le récit qu'elle fait de sa vie. Vous m'avez vu plusieurs fois vous montrer ce fascicule qui s'appelle Estelle nous parle. Et je profite de l'occasion pour vous partager ceci. Cet ouvrage-là, Estelle nous parle, on y a recueilli à la fois son autobiographie, le récit qu'elle a fait de sa vie jusqu'au moment des apparitions, et puis le récit même des apparitions.
Mon père, où est-ce qu'on peut le trouver?
Alors, on le trouve dans toutes les bonnes librairies et tout particulièrement la boutique du sanctuaire. On peut l'y commander. Il s'appelle Estelle nous parle. Mais surtout, mais aussi, et c'était ça que je voulais vous dire. Ah oui, c'est écrit. Pourquoi il est aussi important? Parce que quand Marie a montré à Estelle une plaque de marbre, elle lui a montré aussi une liasse de papier. Une grosse. Liasse pile de papier. Et ça, c'était d'ailleurs dès la troisième apparition. À la première, elle voit la plaque. La troisième, elle revoit la plaque, mais du papier. Estelle essaye de soulever le papier. C'est très lourd. C'est un petit détail parce qu'elle sort son bras droit qui était paralysé. Et la personne qui s'occupe d'Estelle a vu que le bras droit était sorti, elle s'est dit, mais comment elle a fait ça? Parce qu'elle ne pouvait pas le bouger. Et c'est après qu'on l'a appris. Et au mois de juillet, Marie lui a expliqué, ça servira à écrire le récit. Donc, elle a reçu aussi l'ordre d'écrire ce récit. Je vous l'ai dit plusieurs fois, son style, je trouve, dans sa sobriété, dans la clarté, quoi, est très... Au déjeuner, on faisait cette remarque. Il y a de la qualité dans sa lettre, hein. dans la forme aussi, hein, comme elle dit les choses. Alors, elle l'a écrit, et un pèlerin nous a fait le cadeau d'enregistrer la lecture de ce livre. C'est quelqu'un qui est habitué à enregistrer des livres, hein, pour les personnes malvoyantes. Alors, on a l'enregistrement audio du livre « Estelle nous parle ». Et comme dit Jésus, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. C'est à disposition. Tout le monde peut le trouver sur le site internet du sanctuaire. Alors, il y a une page qui est dédiée aux apparitions, et là, il y a l'enregistrement audio, très facilement accessible, hein, du récit d'Estelle. Et puis, il y a une page qui est dédiée à Estelle elle-même. Et là, on y trouve son autobiographie. Et j'en ai fait l'expérience, pour moi-même et pour d'autres. Entendre ce texte, il est très bien lu. L'entendre, ça a une force particulière. Voilà. Alors, je lui donne donc la parole. Vendredi 8 septembre. Tout le mois de juillet et le mois d'août sont passés. Elle est impatiente. Ah si, il faut quand même le dire. Non, il faut que je revienne un tout petit peu. À partir du 15 août, je n'avais pas de patience, je me tourmentais, je ne pouvais plus prier sans être assailli de la mauvaise pensée de sortir du château. Et j'avais le désir de m'en aller la nuit à Pelvoisin, et je manigançais ma sortie et mon chemin sans être vu, puis je serais rentré, etc. Pourquoi c'est une mauvaise pensée? Parce qu'elle sait qu'elle doit obéir, qu'elle n'a pas le droit de sortir si on ne lui a pas donné l'autorisation. J'arrangeais tout très bien dans mon esprit. Bref, heureusement que je ne me suis pas bougé, tout en étant agité intérieurement. Je suis même descendu jusqu'à la porte de sortie pour m'assurer comment je pourrais sortir et rentrer. Puis, je suis remonté, heureusement. Donc, elle flirte avec la tentation, hein. Elle s'approche du feu, hein. C'est assurément la Divine Mère qui m'a gardé. Le vendredi 8 septembre, fête de la Nativité de la Sainte Vierge, on avait l'habitude d'aller aux offices à Pelvoisin. Les maîtres m'avaient emmené. Je suis allé à ma chambre, espérant revoir la bonne mère, mais je ne la vis pas. C'est après cela que, ne voulant pas partir de Pelvoisin sans m'être confessé, je suis allé trouver monsieur le curé au confessionnal. Je confiais à monsieur le curé tout mon tourment de cette nuit précédente. Et j'ajoutais que je n'étais pas calme parce que j'avais un trop grand désir de voir cette mère. Et je voulais savoir ce qu'elle voulait de moi. Et j'avais un trop grand désir de la voir. Si c'est un bon désir, trop grand. Tiens. Monsieur le curé me dit, ce sont des tentations. Je vous défends de venir ici la nuit. Vous voulez donc compromettre la gloire de la Sainte Vierge? Il me fit de la peine. Mais je le compris et je me suis résigné facilement. Le soir, j'ai pu prier et dormir bien tranquillement. Le matin 9 septembre, je ressentis ce qui m'était déjà arrivé bien des fois en pensant à la Sainte Vierge. Mon cœur sautait dans ma poitrine. Cela me produisait l'effet qu'on ressent quand on va revoir quelqu'un qu'on aime bien et dont on est privé depuis longtemps. Or, après la messe entendue à la chapelle du château, je n'y tins plus. Cela se trouvait un samedi. Je suis allé trouver Madame la Comtesse de la Rochefoucauld au salon pour lui demander la permission d'aller à Pelvoisin. On me refusa net. Madame me dit, « Vous n'y pensez pas, ma pauvre Estelle. Qu'avez-vous besoin d'y aller aujourd'hui? Vous y êtes allée hier et demain c'est dimanche. Par conséquent, vous irez demain. » Cette réponse était loin de me faire plaisir. Je suis remonté dans ma chambre, le cœur bien gros. Mais je me suis résigné en priant la Divine Mère d'arranger les choses. Si elle désirait que j'aille à Pelvoisin. Dans la journée, après le grand déjeuner, Madame la Comtesse me fit venir au salon et elle me dit « Estelle, vous vous tiendrez prête pour 2 heures. Monsieur le Comte ira à Pelvoisin et vous emmènera. » Ceci m'a fait un plaisir inouï. Je croyais que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Je partis donc à Pelvoisin. Après avoir embrassé mes parents, qui étaient restés dans la maison où j'avais été guéri, je passais vite dans ma chambre. J'ai prié assez longtemps. Le temps coulait vite. Je craignais de faire attendre monsieur le comte. Or, je partis chez monsieur le curé. Il me dit « Il vous reste encore un peu de temps, retournez prier. » Ce que je fis, et alors je repris mon chapelet, et je le finissais quand la Sainte Vierge est venue. C'est très simple, on se le disait. Et dans mon récit vendredi soir, pour aller plus vite, j'ai omis cette chose-là que je vais souligner. La délicatesse du cœur de cette femme qui se retrouve dans la chambre, j'allais dire contre toute espérance, hein. Elle a dit son cœur sautait dans sa poitrine, elle y est enfin, et là, elle dit « mais je veux pas mettre le comte en retard ». Et elle quitte la chambre, avec le risque de ne pas y revenir. Se calmer, c'est quelque chose de très actif, vous voyez. C'est pas simplement une résignation, je fais malgré ça, quoi. Elle est dans le lieu, elle pourrait dire ben, « je le quitte pas tant que Marie ne m'apparaît pas, quoi. » Non, je veux pas mettre le comte en retard. Et la Sainte Vierge, hein, nous l'avons entendu, lui dit « tu t'es privé de ma visite, mais j'attendais de toi cet acte de soumission et d'obéissance. » Et c'est vraiment une obéissance filiale, quoi, avec cette qualité de la délicatesse, quoi. Alors, oui, le calme. Marie a insisté ici, et je veux en parler un moment. Et il semble très clair, hein, parce que la suite du récit de l'apparition le montre. Hein, maintenant qu'elle a fait cet effort, Marie l'oriente vers sa mission, en fait une missionnaire du cœur du Christ. Pourquoi le calme? Et que signifie-t-il? Alors à nouveau, je vais revenir à l'Évangile. Savez-vous où dans l'Évangile on trouve le mot calme? On le trouve une fois.
Calmer la tempête.
Exactement. Il se fit un grand calme. Il se fit un grand calme. Alors, on connaît l'épisode. Hein. Vous vous souvenez, quand Jésus choisit ses premiers disciples, il va faire des apôtres aussi, ce sont des pêcheurs. Des gens qui pêchent, pas qui font des péchés, mais qui pêchent des poissons. Hein. Et il leur dit, vous allez devenir des pêcheurs d'hommes. Et c'est une image qui parle de la mission, hein, la conquête. Il y a dans l'évangile de Jean un épisode avec une pêche merveilleuse, très abondante, hein, mais une fois que Jésus est ressuscité. Et cette page de l'évangile, chez chapitre 21, unit deux images. On voit les disciples qui pêchent, et Jésus leur dit « amenez les poissons », et quand ils les ont amenés sur les rivages, les poissons deviennent des brebis. Parce que à ce moment-là, façon de parler, hein, c'est moi qui... Non, c'est ma façon de dire, raconter les choses. Parce qu'ensuite, Jésus dit à Pierre « va falloir que tu t'occupes de mes brebis ». Alors, vous voyez, je file la métaphore, hein. Il y a une dimension de conquête. Pêcheur d'hommes. Le pêcheur, quelqu'un qui chasse, qui ramène, qui sort de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire, pêcheur d'hommes? Puis en plus, la pêche, c'est une chasse où tu vois pas toujours ton gibier. Hein. D'ailleurs, c'est vraiment les expériences que font les disciples dans les deux épisodes, celui qui est raconté tout à fait presque au début de la vie apostolique et puis après la résurrection, hein. On a pêché toute la nuit, on a jeté nos filets sans rien prendre. Être pêcheur d'hommes. Et Jésus dit à ses disciples, je vais vous apprendre à pêcher des hommes. Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et de fait, quand on est attentif dans l'évangile, ils ont laissé leur barque, mais ils vont s'y retrouver assez souvent. Et là encore, hein, l'évangile parle avec des images. Et Jésus va être assez souvent avec eux sur le lac, dans une barque. Et à un moment, ils vont laisser leur barque et le suivre jusqu'au chemin, sur le chemin vers Jérusalem, vers le moment de la Pâque. En tout cas, quand Jésus fait des traversées, quand il est sur la barque avec ses disciples, ça dit quelque chose de l'Église, de la communauté qu'il rassemble et de cette communauté, de cette barque hein, qui est sur des eaux agitées et pour que tous ceux qui sont prisonniers dans l'eau puissent eux aussi être amenés dans la barque et aller au bout, au rivage. Hein. C'est une image de la mission. Alors, dans l'épisode de la tempête apaisée, il y a plusieurs hein, traversées. Nous nous souvenons, hein, il y a la tempête, Jésus dort, et eux, ils ont peur, ils le réveillent en disant « Nous périssons, cela ne te fait rien. » Que fait Jésus ? Il s'adresse au vent et aux vagues, et il se fait un grand calme. Et à ce moment-là, il leur dit « Pourquoi n'avez-vous pas la foi ? Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi ?» Et si nous traduisons hein, autrement, si nous traduisons, nous comprenons, ça peut se dire de cette façon-là, aujourd'hui, parce que vous étiez affolés, j'ai maîtrisé les éléments extérieurs, dont vous craigniez qu'ils vous engloutissent. Et vous avez cédé à la tentation de croire que moi, même si je dormais, je ne vous protégeais pas. Que même si visiblement je n'agissais pas, je n'étais pas le garant que nous allons passer sur l'autre rive. Vous avez cédé à cette tentation. La prochaine fois, bien laissez-moi dormir. Faites le calme au-dedans de vous. Gardez ce calme qui est, oui, un fruit de la confiance. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir le mal de mer. Vous allez être secoué, peut-être que vous allez un peu boire à la tasse. Ouais. Qui sait, ça arrive dans la tempête. On connaît l'épisode qui concerne l'apôtre Paul. Il y a des moments où il faut jeter des choses du bateau parce que hein, il faut l'alléger. Mais nous passerons sur l'autre rive. Le calme. Quand Marie dit à Estelle, dans l'église aussi, il n'y a pas ce calme que je désire. Hein. Alors je le lis à la tempête, et oui, parce que il y a un contexte hostile, il y a le combat, il y a la peur d'être englouti. Dans la vie d'Estelle, ensuite, il y a eu des moments où elle était dépassée par les événements, ça nous arrive. Et si l'on regarde un petit peu l'histoire de notre humanité, l'interconnexion, je ne parle pas uniquement des moyens de communication, hein, mais le monde, l'humanité fait qu'il y a une dépendance hein, mutuelle. On le sent bien, quoi. Il y a un contexte qui fait qu'on a perdu la maîtrise. Qui l'a, la maîtrise ? Et de fait, quand c'est la tempête, hein, tu n'as plus la maîtrise. Et là, gardez le calme. À nouveau, hein, c'est pas du tout être insensible. Je dis, et Marie emploie cette expression, faire effort pour garder le calme. Nous savons que nous avons une certaine maîtrise, non pas sur la naissance de nos émotions. Alors, j'ai rapporté au début, hein, Estelle dit, un trop grand désir, dans toute leur variété, il n'y a pas que la peur. Hein. Il y a aussi celle-là. La naissance de nos émotions, quand nous sommes face au danger, cela existe. Mais faire effort pour ne pas être submergé. Une disposition, oui, je le disais, une disposition à ensuite, justement, pouvoir faire la traversée, tenir notre place, vivre de la promesse de Jésus.
Alors,
cette expression de Marie maintenant, qui dit « Publie ma gloire ». Les mots, à nouveau, sont simples. Quelle est la gloire de Marie et pourquoi faut-il publier sa gloire? C'est la gloire de Dieu, c'est à Dieu qu'est la gloire. Vous vous souvenez, peut-être? Il me semble que, ouais, il y a des éléments de la réponse qu'on trouve là. Quand Jésus, c'est rapporté au chapitre 17 de l'évangile de Jean, quand Jésus prie son Père, hein, Père, l'heure est venue, quand Jésus demande d'être glorifié, en parlant de ses disciples, il dit « Je suis glorifié en eux ». Je suis glorifié en eux. Qu'est-ce à dire cela? Là encore, la réalité est simple, mais elle nous dépasse tellement. Dans notre profession de foi, nous disons « Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel ». Il prit chair de la Vierge Marie et s'est fait homme pour nous. C'est pour nous et c'est gratuit. L'incarnation n'ajoute rien à Dieu. Vous le savez, nous le savons. Mais c'est totalement pour nous. C'est pour l'humanité. Il se donne. Ouais. Il devient l'un de nous, hein, comme l'ont dit les pères de l'Église, pour que nous devenions Dieu. J'ai encore souri à la fin de la messe, après cette... Vous avez entendu la prière que frère Dominique Marie a dit, la prière après la communion? Chaque fois que j'entends maintenant, ça me fait sourire. Seigneur, puisque nous avons reçu le corps du Christ, accorde-nous d'être participants de la vie éternelle. Et on dit tous Amen. Tiens, on demande juste de devenir Dieu, quoi. Voilà, comme ça. Hein. Participants de la vie éternelle. Non mais, on doute de rien. Hein. Si on en doute, justement, on n'y croit pas assez. Mais c'est la promesse pour nous. Il a voulu ça pour nous. Alors il est glorifié en eux. Il est glorifié en ceux qui le suivent. Et il est glorifié en elle, la première. Publier la gloire de Marie, c'est publier le rayonnement. Oui, c'est le fait que c'est Jésus, Dieu fait homme, lui qui demande sa gloire. Mais il la demande pour son corps. Il la demande pour son corps qui est l'Église. Et pour la première des membres de l'Église, pour Marie. C'est une comparaison lointaine, mais j'avais lu un jour l'interview d'un chanteur lyrique très fameux qui a fait une carrière internationale. C'était d'ailleurs étonnant, cet homme, il était mécanicien dans un garage, il aimait beaucoup chanter, et puis dans un garage, il y a beaucoup de bruit. Donc il chantait très fort. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient dans le garage, qui l'entend chanter, qui lui dit « Mais votre place, elle n'est pas ici, quoi. » Et hop ! Et il a fait donc une carrière à l'opéra. Oui, une carrière internationale, quoi, vous voyez. Découverte des talents, quoi. C'est pas le chasseur de tête, c'est le chasseur de voix. Et alors, j'ai lu une interview, et on interviewe lui, puis on pose la question à son épouse. On lui dit « Mais c'est... Est-ce que c'est pas parfois difficile de vivre à l'ombre d'un homme célèbre ?» Alors elle répond, « Pourquoi à l'ombre ? Mais dans la lumière !» Exact. Ça dit quelque chose, hein, de leur qualité. Et vous voyez, je fais le lien. Nous ne vivons pas à l'ombre de Jésus, mais dans sa lumière. Et la gloire qui rejaillit parce que la gloire... Elle s'exprime aussi en termes de lumière, hein, de rayonnement. Elle dit la réalité, le poids, la manifestation de ce qu'est la personne, l'être. Hein, mais de fait, une manifestation, donc très spontanément, la lumière, hein, ce qui rayonne, quoi, se donne à voir, à connaître. Je suis glorifié en eux. Il est glorifié en elle. Dieu n'a pas pu se résoudre au péché. Il avait perdu ton amitié par sa désobéissance. C'est la quatrième des prières eucharistiques qui dit cela. Tu ne l'as pas abandonné au pouvoir du péché. Tu es venu en aide à tous les hommes. Et Dieu qui vient en aide, c'est pas simplement pour guérir. Non, c'est pour glorifier. Et l'homme qui avait perdu la maîtrise sur sa vie, qui s'est laissé séduire par l'esprit du mal, et ouais, l'homme, la créature humaine, est non seulement restauré, mais est établi dans une dignité nouvelle. Et la royauté de Marie dit cela. Elle est reine. Celle à qui Dieu remet le dessein du monde. Quand je dis ça, c'est parce que, de fait, il n'y a pas une créature humaine qui a posé des actes aussi définitifs pour l'histoire qu'elle. La conduite de l'histoire dans la réalité, pas dans la succession des événements qui font ce qu'on appelle l'actualité. Elle a tenu une place en étant à sa place, en se faisant servante. Et en étant à cette place, elle est reine. Les serviteurs de Dieu régneront. Le livre de l'Apocalypse dit ça. Servir Dieu, c'est régner. Et parce que il veut cela, non seulement des serviteurs, mais des fils. Tout pouvoir m'a été remis et Jésus, en un sens, le remet à Marie. Ils sont touchants, les passages de l'Évangile, où on voit Jésus qui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et il le dit à sa mère, parce qu'elle s'est parfaitement accordée. Tiens, quand deux ou trois s'accordent, j'avais mis dans mes notes, je vous le partage, parce que ça m'est revenu au moment où on a chanté tout à l'heure. Il y a eu ce moment où le chant est parti, et oh là là, on se demandait si on allait y arriver. Et puis on a senti que les voix s'accordaient. Il y avait une beauté de ça. C'est beau. En fait, le verbe s'accorder, c'est le verbe symphonie. Oui, c'est vraiment ça. C'est le verbe du grec. Le grec, c'est le son, les sons ensemble, la symphonie, quoi. Quand deux ou trois sont en symphonie. Puis là, on était plus que deux ou trois tout à l'heure. Elle est parfaitement accordée, et c'est puisque c'est pour nous. C'est son dessein que la créature humaine coopère le plus possible à son œuvre. Il l'a voulu féconde, mère et reine. Je vous invite, avant de partir, à aller, si vous n'avez pas encore vu, regarder, on peut dire contempler. Là, il y a une double fresque dans la direction que j'indique. Au sommet du parc, il y a un oratoire ouvert, avec la fresque que l'on aperçoit là, dans ce sens-là, qui est la plus petite, une représentation symbolique de Marie et Estelle. Quand je dis symbolique, parce qu'elle unit des éléments de différentes apparitions. Et il y a un petit scorpion en bas à gauche, esprit du mal. Et puis, la fresque principale, c'est Marie couronnée. Jésus l'a couronnée. Le 22 août, la lettre du préfet, du responsable du dicastère pour la doctrine de la foi, a été signée le 22 août. Marie-Reine. Marie dit « Je suis maîtresse de mon fils ». Maîtresse. De fait, dans la Bible, les reines, elles sont reines sur le cœur du roi. Nous avons entendu, c'était vendredi, que vous nous avez lu un extrait d'Esther. Elle va rencontrer le roi et elle saisit son cœur. Maîtresse de mon fils.
L'oisse mortelle qui l'étreignait.
Ouais, et elle l'appelle le lion. Exactement. Vous ne le savez peut-être pas, mais dans la messe propre de Pellevoisin, c'est la première lecture. Ah oui. Bah oui, parce que de fait, au plus fort de ma misère, et la confiance est confiée à Marie. Oui, de fait, c'était aussi encore un clin d'œil. Alors, elle est reine, publiez sa gloire. Et nous croyons en Marie monter au ciel dans son corps et dans son âme. Glorifié dans son corps et dans son âme. Vous nous le savons, nous, les autres, il y a une distance entre la mort et l'entrée dans la vie éternelle et la résurrection des corps. C'est à la fin du monde hein, qu'il y aura la résurrection des corps. Je ne sais pas si vous êtes demandé pourquoi. Je vais vous dire que j'y ai pensé aussi, y compris à travers les témoignages de tout à l'heure. Dans le sens où nos existences sont liées. Oui, il y a des nœuds. Et il y a une solidarité entre tous les hommes. Et dans des témoignages, tout à l'heure, il y a des gens qui l'ont dit bien mieux que je le répète là maintenant. Oui, le mouvement est lancé. Mais il y a encore des nœuds. Il va y avoir encore des dénouements. Il va y avoir encore hein, des choses qui vont se faire. Jusqu'à la fin du monde, toute l'humanité est en travail d'enfantement. Toute l'humanité. Dans les blessures que nous confions, dans celles que vous avez confiées et que nous, parfois comme prêtres dont j'entends la confidence, hein, il y en a qui concernent aussi des êtres qui ont disparu. Telle blessure à l'égard d'un ancêtre, d'un parent, d'un conjoint qui est plus là. Avec une souffrance, une blessure qui reste encore ouverte. Ah oui, un désir de pardonner, mais on n'a pas pu l'échanger. Et celle-là, on prie pour qu'il soit dans le bonheur de Dieu. Sans délai, parce que Dieu est miséricordieux. Il y a quelque chose qui convient dans le fait de dire « Il y aura un aboutissement. Un jour, on sera pleinement réconciliés. Un jour, toutes nos relations seront rendues à la paix, à la beauté. » Je ne sais pas comment vous imaginez le ciel. On imagine rarement la vie au ciel. Alors, c'est voir Dieu. Mais il y a quelque chose, je pense, qui peut nous consoler et nous aider, hein. Aussi quand nous sommes face à ce qui est pour une part une sorte d'échec ou un manque qui est encore là. Tout sera guéri et réparé. Tout. Et il est bon hein, d'entendre cela avec force, demandez à Marie de nous faire vivre de ce réalisme-là, tout. Elle est là. Non, ça, c'est pas le mien, il est là. Alors nous portons cette espérance, et en Marie, nous voyons cela réaliser. Elle est l'Immaculée, elle a porté, elle s'est unie à son Fils. Elle est celle qui était le plus proche de lui. Et en elle, cette espérance de la restauration, de la guérison plénière, elle trouve une image. Hein. Et plus encore, je crois avoir déjà évoqué, d'ailleurs à propos de la lettre d'Estelle, de ce qui avait, je le disais, de pas tout à fait chrétien, il peut arriver que quand nous souffrions, nous disons « c'est parce que je le mérite ». Et que nous cherchons la cause de telle souffrance aussi dans quelque chose que nous avons fait, que quelqu'un d'autre a fait. En tout cas, dans quelque chose que nous avons fait. On le voit, Marie, elle a connu la souffrance, elle aussi qui était parfaitement innocente. Et auprès d'elle, nous découvrons comme des petits, oui, faible. Mais nous le découvrons parce qu'elle est une mère et qu'elle nous partage ça, que d'une façon qui nous échappe. Ces blessures, si nous les vivons près de Jésus, en mettant nos pas dans les pas de Jésus, comme je disais ce matin, en, en laissant Jésus connaître ce trouble pour nous et en le remerciant et en lui le laissant nous engager dans le chemin de la confiance, de la compassion, de celui qui refuse d'entrer dans la vengeance, ou qui combat autant qu'il peut l'amertume. Alors, nous participons à son œuvre. Et ça aussi, cela sera manifesté au dernier temps. Et vivre près de Marie et choisir de publier sa gloire et choisir que nos vies soient auprès d'elle, c'est aussi comme une assurance. Elle nous gardera de ce qu'il pourrait y avoir d'étroitesse de vue, même si nous grandissons, nous restons limités, ce qu'il pourrait y avoir de vanité, de retour sur soi, de ce qui serait trop humain. Qu'elle soit reine. Vraiment. Et pour achever mon propos, je vais donner la parole à Benoît XVI. Ça fait quelque temps que les papes que nous avons eus ont été... on a eu des papes canonisés, Jean XXIII, Paul VI, là, on a béatifié Jean-Paul Ier, Jean-Paul II. Qu'est-ce qu'il en sera de Benoît XVI? Dieu le sait. Il avait un enseignement si lumineux. Et de fait, peut-être certains d'entre nous ont été à Lourdes quand il y est venu. Est-ce qu'il y en a qui étaient à Lourdes quand Benoît XVI y est venu? Voilà, Benoît XVI, il est venu à Lourdes. Il avait fait notamment une méditation devant le Saint-Sacrement exposé, qui était quelque chose de très beau. Et puis, il a aussi présidé une messe au cours de laquelle a été donnée l'onction des malades. Alors, je souscris à ce qui a été dit tout à l'heure sur l'onction des malades. Je vais vous dire ce petit clin d'œil aussi. Hier, au plein milieu de notre retraite, j'ai donné l'onction des malades à une de nos sœurs. Et je l'ai vue, oui, vraiment comme un clin d'œil, quoi. Voilà. Et c'est un si beau sacrement. Alors, Benoît XVI, au cours de cette messe, a prononcé une homélie dont je vais vous citer un extrait et on va terminer là-dessus. Marie est aujourd'hui dans la joie et la gloire de la résurrection. Les larmes qui étaient les siennes au pied de la croix se sont transformées en un sourire que rien n'effacera, tandis que sa compassion maternelle envers nous demeure intacte. Le psalmiste, l'auteur du psaume, percevant de loin ce lien maternel qui unit la mère du peuple et la mère du Christ et le peuple croyant, prophétise au sujet de la Vierge Marie que les plus riches du peuple quêteront ton sourire. Ainsi, à l'instigation de la parole inspirée de l'Écriture, les chrétiens ont-ils depuis toujours quêté le sourire de Notre-Dame. Ce sourire que les artistes au Moyen-Âge ont si prodigieusement représenté et mettre en valeur. Ce sourire de Marie est pour tous. Il s'adresse cependant tout spécialement à ceux qui souffrent, afin qu'ils puissent y trouver le réconfort et l'apaisement. Rechercher le sourire de Marie n'est pas le fait d'un sentimentalisme dévot ou suranné, mais c'est bien plutôt l'expression juste de la relation vivante et profondément humaine qui nous lie à celle que le Christ nous a donnée pour mère. Désirer contempler ce sourire de la Vierge, ce n'est pas se laisser mener par une imagination incontrôlée. L'Écriture elle-même nous le dévoile sur les lèvres de Marie lorsqu'elle chante le Magnificat « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur ». Quand la Vierge Marie rend grâce au Seigneur, elle nous prend à témoin. Marie partage, comme par anticipation, avec ses futurs enfants que nous sommes, la joie qui habite son cœur pour qu'elle devienne la nôtre. Chaque récitation du Magnificat fait de nous des témoins de son sourire. Dans le sourire de la plus éminente de toutes les créatures tournées vers nous, se reflète notre dignité d'enfant de Dieu. Cette dignité qui n'abandonne jamais celui qui est malade. Ce sourire, vrai reflet de la tendresse de Dieu, est la source d'une espérance invincible. Oui, Qu'était le sourire de la Vierge Marie n'est pas un pieux enfantillage. C'est l'aspiration, dit le psaume 44, de ceux qui sont les plus riches du peuple. Les plus riches, c'est-à-dire dans l'ordre de la foi, ceux qui ont la maturité spirituelle la plus élevée et savent précisément reconnaître leur faiblesse et leur pauvreté devant Dieu. En cette manifestation toute simple de tendresse qu'est un sourire, nous saisissons que notre seule richesse est l'amour que Dieu nous porte et qui passe par le cœur de celle qui est devenue notre mère. Qu'était ce sourire? C'est d'abord cueillir la gratuité de l'amour. C'est aussi savoir provoquer ce sourire par notre effort pour vivre selon la parole de son fils bien-aimé. Tout comme un enfant cherche à faire naître le sourire de sa mère en faisant ce qui lui plaît. Et nous savons ce qui plaît à Marie, grâce aux paroles qu'elle adressa au serviteur à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Le sourire de Marie est une source d'eau vive. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Marie est celle qui a cru, et de son sein ont jailli des fleuves d'eau vive qui viennent irriguer l'histoire des hommes.